Bonjour. Donc, au cours de ces présentations cette année et l'année dernière, qui font un bloc hein, d'une certaine façon, puisque j'ai parlé de cette interface entre certains aspects de cette interface entre la chimie et la biologie. Je reviens à ce terme d'ingénierie métabolique que j'ai beaucoup développé, dont, bon, à nouveau pour ceux qui n'ont pas assisté au cours l'an dernier, vous pouvez retrouver ça sur le site web du collège. Je ne vais pas revenir à ce que c'est que l'ingénierie métabolique. Là, je vais parler, c'est pour ça que je dis une autre ingénierie métabolique, le fait qu'on puisse, pour la production de molécules, pour de la synthèse, combiner de la chimie et de la biologie, c'est-à-dire des micro-organismes et des procédés chimiques. Et comme vous allez le voir, on peut mélanger tout ça dans certains cas et produire des procédés de synthèse tout à fait originaux. Et ce sont des choses qui sont en train de se développer, qui sont vraiment très nouvelles, vous allez le voir. Je vais faire un peu d'histoire sur cette approche-là. Il me faut quand même rappeler un certain nombre de choses que j'ai déjà dites, mais au fond, on est en chimie aujourd'hui confronté à de nouveaux défis. Quand je dis aujourd'hui, ça fait déjà quelques années, mais les problèmes d'environnement, les problèmes économiques conduisent donc les chimistes à inventer de nouvelles synthèses chimiques. Où la catalyse, je vais le dire plusieurs fois, joue un rôle très très important. Pas uniquement parce que c'est un domaine qui m'intéresse, mais parce que réellement, c'est un domaine qui continue et va continuer à occuper notamment l'industrie chimique. Donc, quels sont les défis ? Eh bien, les défis sont là. Il faut travailler avec des composés non toxiques, que ce soit des solvants, des produits, des réactifs, etc. De préférence, si on peut notamment tirer le carbone d'une source qui n'est pas de l'énergie fossile, mais autre chose, c'est évidemment, ça commence à devenir central. Si on peut limiter les déchets ou les transformer, évidemment, c'est quelque chose qui sera très utile. Beaucoup de processus de synthèse chimique coûtent cher en énergie et donc il faut résoudre aussi ce problème de l'énergie. Et enfin, voilà, il y aura moins de déchets, il y aura moins de problèmes toxiques, il y aura moins de dépenses énergétiques si les réactions sont sélectives. Donc la question de la sélectivité des réactions, ça fait longtemps que les chimistes s'y intéressent, bien sûr. Mais il y a encore plus de pression aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne la catalyse, aujourd'hui, il y a la plupart des procédés de synthèse dans l'industrie ont au moins une étape qui est catalytique, souvent plusieurs. Donc, la question de la catalyse est vraiment essentielle. Alors, ici, pour simplifier, la catalyse, c'est tout ça, c'est-à-dire aussi bien de la chimie. Quand je parle de bio, entre parenthèses, biocatalyse, parce que derrière le mot bio, moi, en tout cas, j'ai l'habitude d'y mettre autre chose que des organismes ou des enzymes, etc. J'y mets de la chimie bio-inspirée et des enzymes artificielles, puisque tout ça a un côté bio, entre guillemets. Donc ça va de la chimie jusqu'à des micro-organismes, en passant par des enzymes, des extraits cellulaire, etc. Quand on considère, quand on parle d'ingénierie métabolique ou de biologie synthétique, j'en ai déjà discuté, eh bien on parle de tout ça, c'est-à-dire on parle de ces usines cellulaires qu'on peut construire avec des micro-organismes tels quels, ou en les manipulant de façon génétique un ou plusieurs gènes. Et puis, aujourd'hui, si vous voulez, c'est ce domaine de la biologie synthétique où on peut construire des organismes très, très lourdement génétiquement modifiés, chimiquement modifiés, Et maintenant, on est capable de construire, j'ai développé ça l'année dernière, des micro-organismes et des métabolismes non, enfin, des micro-organismes qui contiennent des métabolismes non naturels, c'est-à-dire y compris des organismes qui produisent des molécules qui sont non naturelles. Et ça peut aller, et j'en ai beaucoup discuté, jusqu'à la construction de génomes qui sont non naturels, c'est-à-dire avec des bases nucléiques modifiées. Enfin, j'ai beaucoup développé ça l'année dernière. Bon, ça, j'ai déjà dit. Donc, lorsqu'on parle d'ingénierie enzymatique, là aussi, c'est quelque chose dont j'ai parlé l'an dernier, mais je veux resituer le problème général que je discute aujourd'hui. Au fond, la démarche est la suivante. Vous cherchez un produit, enfin, vous voulez faire ce produit cible, et donc si vous voulez un système enzymatique, eh bien, il faut définir, identifier l'enzyme qui va permettre de faire ce produit. Alors, l'idéal serait de faire ça, c'est-à-dire d'inventer une protéine qui est exactement l'activité recherchée. Bon, évidemment, vous savez tous que ce n'est pas parce qu'on connaît un produit chimique, un petit produit chimique, qu'on est capable de savoir quelle est l'enzyme qu'il faut avoir, c'est-à-dire en termes de séquence peptidique. Vous savez bien qu'on est incapable aujourd'hui de traduire une séquence peptidique en structure d'une protéine et l'activité d'une protéine. Ça serait merveilleux si on savait le faire. Peut-être un jour on saura le faire, mais pour le moment c'est totalement impossible. Donc c'est impossible de faire comme ça. Et donc, en général, ce qu'on fait, c'est ça. Ce sont des démarches qui sont en partie rationnelles et souvent irrationnelles, c'est-à-dire qu'on modifie l'existant, c'est-à-dire on prend des protéines qui ont des activités qui ressemblent un peu à ça, et puis on a des approches rationnelles lorsqu'on fait de la mutagénèse dirigée, parce qu'elle est dirigée, elle est évidemment rationnelle. Les enzymes artificielles, c'est la même chose. Et puis, il y a les approches totalement irrationnelles que j'ai beaucoup développées aussi l'an dernier, qui sont les évolutions dirigées, les mutagénèses aléatoires, etc. Voilà. Donc là, je vais parler d'une autre façon de faire qui consiste à combiner chimiocatalyse et biocatalyse. Alors, ici, il y a plusieurs façons de présenter tout ça, mais je vais uniquement discuter de deux types d'approches, très, très rapidement. D'une part, cette approche-là qui est de type enzyme artificielle, où effectivement vous combinez des protéines ou des enzymes que vous modifiez plus ou moins et que vous combinez avec des catalyseurs synthétique, pour faire quelque chose qui n'a jamais existé et que vous créez, puisque jamais une protéine avant ça n'a porté ce catalyseur. Et évidemment, tout ça est construit parce que vous avez en tête cette transformation chimique à ADN-B. Donc là, vous avez une enzyme, puisque c'est un catalyseur protéique, mais elle est artificielle, et c'est ça la définition d'artificielle, c'est parce qu'en fait, elle n'est pas naturelle. Bon, ensuite, vous avez, et ça sera la fin de mon cours aujourd'hui, vous avez cette stratégie qui consiste à combiner de la production de molécules à partir de micro-organismes ou d'enzymes, et ensuite de coupler ça avec des catalyseurs chimiques en plusieurs étapes, ou, comme on le dit en anglais, « one pot », tout mélanger, c'est-à-dire micro-organismes, catalyseurs chimiques, etc. Et ça, ce sont des réactions, ce sont des choses qui sont extrêmement nouvelles. Dans ce domaine-là, il peut se passer plein de choses, et je suis très heureux d'avoir après moi donc Boris Vozeil qui va nous parler aussi de choses de cet ordre-là. Et évidemment, vous imaginez pourquoi le terme de biocompatible devient très très important, parce que les chimistes vont mettre dans les mélanges des composés, des catalyseurs, des réactifs, des produits qui sont évidemment pas naturels et potentiellement toxiques, et il faut voir comment tout ça peut être géré pour faire quelque chose d'intéressant. En ce qui concerne donc les approches enzymes artificielles, je ne veux pas en dire trop, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, vous savez de quoi il s'agit. Et à nouveau, je situe à 1978 le travail de Whitesides comme étant l'origine de ce domaine-là. C'est pratiquement il y a 40 ans. Il y a eu un grand gap, comme toujours. Hein. Il y a des pionniers qui font une manip, et puis il faut attendre une vingtaine d'années avant que toute une communauté rebondisse dessus. C'est exactement le cas. C'est un domaine qui est aujourd'hui très actif, mais néanmoins, je crois que Whitesides, donc je le dis chaque fois que j'en parle, hein, qui est, je crois, le chimiste sur la planète qui est le plus cité aujourd'hui, a avancé cette idée qu'on pouvait prendre une protéine, ici c'est une streptavidine, qui est une protéine qui est très douée pour fixer une molécule qui s'appelle la biotine, qui est cette molécule-là, et en couplant un catalyseur à base de rhodium sur cette biotine, tout ça s'accroche ici, et donc on crée s'accroche de façon extrêmement forte, et on crée une protéine qui devient une enzyme, parce que cette partie catalytique est capable de faire fonctionner ce système hybride dans une réaction chimique qui n'est pas naturelle, parce que dans la nature, à ma connaissance, je ne connais pas une seule réaction d'hydrogénation, vous voyez, d'hydrogénation d'une double liaison. C'était, de mon point de vue, la première expérience qui montrait qu'on pouvait construire une enzyme artificielle. On peut aussi... Tout à l'heure, j'ai utilisé, je crois, ce terme d'enzyme de novo en disant est-ce qu'on peut construire par informatique une enzyme, enfin, proposer une séquence et exprimer cette séquence et une enzyme cible, voilà, sur des bases extrêmement rationnelles. J'ai dit finalement non, mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il existe quand même des approches comme ça, enzymes de novo, c'est-à-dire que vous voyez par exemple ici, il y a énormément de protéines, par exemple à zinc, qui sont douées pour faire des réactions d'hydrolyse. Vous voyez ici, vous avez l'hydrolyse d'un ester pour donner un acide. C'est une réaction qui est très abondante dans le système vivant, donc il y a des enzymes pour faire ça, et ce sont des enzymes à zinc souvent, parce que le zinc est un excellent acide de Lewis qui polarise les liaisons et qui facilite l'attaque de la molécule d'eau sur ce carbone pour faire partir, pour casser cette liaison carbone-oxygène. Il suffit de regarder, il suffit entre guillemets, si on a des informations structurales de la protéine, de regarder quel est l'environnement du zinc, puisque, au fond, tout se passe ici. J'ai souvent dit cela, mais j'ai souvent fait attention de dire que tout ce qu'il y a autour n'est pas là inutilement, bien sûr. La partie protéique sert à des tas de choses dans la cellule. Mais néanmoins, la chimie se fait ici. Ce substrat se fixe sur cet atome de zinc qui est, vous voyez ici, entouré par trois imidazoles de résidus histidine. C'est une structure assez classique pour ce genre de réaction. Donc, on peut, à partir de là, construire des toutes petites protéines. C'est ce qui a été fait dans ce travail. Vous voyez, ce système à trois hélices, toutes simples. Alors, c'est beaucoup plus simple que ça, dans lesquelles on a installé des histidines. Et, en effet, il a été montré que des protéines comme ça, qui n'ont strictement aucune homologie de séquence avec ces entités-là, mais qui possèdent les éléments structuraux suffisants pour fixer un atome de zinc et lui conférer une activité enzymatique. Voilà le genre d'approche qui peut être faite, et vous voyez qu'on combine de la biocatalyse avec de la catalyse chimique. Voilà, donc maintenant je vais parler de cette affaire-là, comment on peut combiner chimiocatalyse avec biocatalyse. Ici, quand je parlerai de biocatalyse, ça sera aussi bien donc, avec des enzymes. Alors quand je dis enzymes, ça peut être donc, des enzymes naturelles, ça peut être des enzymes artificielles, ça peut être des enzymes naturelles lourdement modifiées par mutagénèse. Voilà. Et puis, plus récemment, donc, ça peut être aussi des micro-organismes. Et l'idée, c'est donc de combiner une réaction ou plusieurs de type biocatalytique et des réactions de type chimiocatalytique. Et vous allez voir pourquoi ça peut être intéressant. Alors, évidemment, l'idée, c'est construire des procédés de synthèse qui combinent les avantages des uns et des autres pour faire mieux. C'est amusant de travailler là-dessus, mais quand même, l'objectif, c'est est-ce qu'on peut inventer des nouveaux procédés de synthèse, à nouveau, qui soient identifiés chimie verte, qui combinent donc les avantages de la synthèse organique, à savoir que les procédés de chimiques permettent de transformer une très grande variété de substrats, ce qui n'est pas le cas des systèmes enzymatiques, de produire une grande diversité de produits, d'être facilement optimisable, et puis combiner avec les avantages de la synthèse biologique, à savoir que, évidemment, les enzymes sont des systèmes extrêmement efficaces, mais souvent bien plus que les systèmes chimiques, donc on peut avoir des activités extrêmement fortes en termes de cinétique, des grandes sélectivités, évidemment l'avantage de conditions très douces. C'est en gros, on fait fonctionner les enzymes dans l'eau et à température et pression ambiante. Donc voilà. Donc voilà un petit peu l'idée. On peut même aller plus loin, c'est-à-dire que, comme vous allez le voir, on a commencé par, et ça depuis longtemps, par combiner ces choses-là, mais de façon séquentielle. C'est-à-dire, on fait une réaction biologique, on récupère un produit, on l'isole, puis on passe à l'étape suivante, on fait de la chimie, puis on passe à l'étape suivante, on refait de la biologie, enfin, etc. Et là, l'idée, c'est, donc, si vous voulez, ça fait longtemps qu'on utilise des étapes de catalyse chimique et des étapes de biocatalyse qui sont séparées, qui sont représentées par ce schéma ici. Vous voyez, vous avez une biotransformation, vous travaillez tout ça, vous isolez le produit, donc ce sont des étapes lourdes, puis vous passez par une autre étape, etc. Bon. L'idée, c'est est-ce qu'on peut combiner X enzymes et X catalyseurs chimiques dans un seul réacteur. Et évidemment, ça ressemble à ça. Vous avez un système pour une biotransformation, pour une transformation chimique, un autre pour une biotransformation, etc. Tout ça est mélangé, tout ça travaille ensemble, et à la fin, vous n'avez qu'une étape de purification du produit, etc. Évidemment, on imagine avec une stratégie comme ça que ça peut avoir évidemment moins de déchets. Toute la partie qui s'appelle work-up ici, c'est quand même des étapes qui sont lourdes, consommatrices d'énergie, de solvants, et très producteurs de déchets. Donc moins d'étapes, moins de solvants. Alors évidemment, il y a, vous voyez ici, j'indiquerai d'autres défis, mais un très grand défi qui est celui de la compatibilité, évidemment, de ces différents réactifs. Là, on les mélange tous, donc compatibilité en termes de toxicité, compatibilité en termes de solvants. Le plus souvent, les réactifs chimiques travaillent dans des solvants organiques et les enzymes dans l'eau. Donc, il faut de la chimie qui travaille dans l'eau ou des enzymes qui travaillent dans les solvants organiques. Donc là, il y a beaucoup de questions tout à fait intéressantes du point de vue pratique. Bon, ça, je l'ai déjà dit. En gros, c'est la même chose. Et donc, si on arrive à faire ça, au fond, on crée une sorte de quatrième domaine de la chimie pour la synthèse. D'une certaine façon, on a parlé d'ingénierie métabolique. Donc là, on utilise comme outil de synthèse des usines cellulaires. Et on est dans un environnement purement biologique. Vous avez la biocatalyse, c'est de la chimie, c'est-à-dire on n'est plus dans un environnement vivant, cellulaire, mais c'est un outil de synthèse biologique, puisque c'est une enzyme. Ici, vous avez la pure chimie organique, c'est-à-dire que vous êtes dans un environnement de chimie et les outils sont de la chimie, c'est-à-dire des réactifs organiques, des catalyseurs, etc., etc. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut créer un nouveau domaine qui est ce domaine de la chimie biocompatible, on peut l'appeler comme ça, dans lequel vous avez des outils chimiques que vous mettez dans un environnement biologique. Et évidemment, l'idée, c'est de compléter, on pourrait dire que jusqu'à présent, il n'y avait que ça, on rajoute ce domaine-là, c'est de compléter le répertoire des réactions biocatalytiques. Donc, à nouveau, cette idée de combiner, de mettre en tandem la catalyse biologique et la catalyse chimique dans un seul réacteur. Et puis, évidemment, pour réussir cela, donc rendre les réactions biocompatibles, les réactions chimiques, et ça peut aller jusqu'à transformer le métabolisme cellulaire. Alors, quand on regarde cette histoire-là, quand on va chercher un peu qui c'est qui a fait vraiment ça au début, voilà, je remonte à 1980, donc vous allez me dire que ce n'est pas très nouveau. Bon, dans l'histoire des sciences, ce n'est pas si loin, mais ce n'est pas effectivement 2000. Mais comme vous allez le voir, entre 1980 et 2008, il ne s'est rien passé. Donc pratiquement en 1980, on peut citer ce travail où... où donc ces auteurs ont combiné une enzyme, glucose isomérase, et un catalyseur hétérogène, solide, hein, métallique, pour faire une réaction d'hydrogénation. Et donc, en combinant ces deux choses-là, il y a dans un seul réacteur, il a été possible... Voilà, de transformer non seulement le glucose en glucitol, mais le glucose en mannitol. Donc, comme je l'ai dit, il a fallu attendre presque 30 ans plus tard, puisque, enfin, à ma connaissance, je ne vois rien de très intéressant entre 80 et 2008. Et à partir, disons, de la fin des années 2000, hein, vous voyez, donc c'est des... Là, pour le coup, ce sont des choses très, très récentes. Je vais vous montrer toute une série de réalisations qui ont été faites, là, dans un premier temps, uniquement avec des enzymes et des catalyseurs chimiques. Après, je passerai aux micro-organismes. Ici, c'est un exemple d'une réaction classique en chimie organique. C'est une réaction de couplage de Suzuki. Vous créez par cette réaction-là avec un catalyseur à base de palladium une liaison carbone-carbone. Ici, vous accrochez un groupement aryl à un autre groupement aryl. Et vous voyez ici, vous faites une réaction donc avec un catalyseur à base de palladium, vous voyez, type phosphine de palladium. Vous êtes en milieu aqueux, ce qui est intéressant. Et puis l'intermédiaire n'est pas isolé, donc ce n'est pas vraiment une étape, puis une autre, enfin, etc. Et vous rajoutez une alcool déshydrogénase, et grâce à ça, vous faites la réduction de l'acétone en alcool, et comme ces enzymes-là sont énantiosélectives, vous pouvez introduire des carbones chiro, donc vous pouvez faire une synthèse énantiosélective. Vous voyez ici, vous avez un carbone asymétrique et vous consommez évidemment cet alcool. Ici, pour vous montrer, c'est la même réaction, hein, dans un cas particulier. Ce qui est intéressant de noter, c'est que vous avez presque 100% de conversion et vous avez un excès énantiomérique de pratiquement 100%. Donc c'est une, une production vraiment formidable d'un composé avec des sélectivités tout à fait remarquables, des efficacités tout à fait remarquables, et sans inventer des choses terribles, en utilisant des catalyseurs et des réactions connues et en les combinant avec des enzymes qui sont aussi, c'est des alcools déshydrogénases, donc c'est pas, enfin je veux dire, c'est pas des enzymes compliquées, c'est des enzymes que les gens savent manipuler depuis longtemps. Bon, simplement, il fallait avoir l'idée de mettre tout ça ensemble et de faire cette chimie-là. Alors, je vais montrer une série de... J'ai choisi de vous montrer une série de réactions très classiques, mais on pourrait imaginer toutes sortes de réactions très classiques de la chimie, avec des catalyseurs métalliques, donc qui sont des catalyseurs métalliques qui sont combinés donc, avec des enzymes. Il y aura des cas où vous allez voir des systèmes dans lesquels il n'y a qu'une enzyme, mais des cas où il y a plusieurs enzymes qui sont mélangées avec des catalyseurs chimiques. Ici, à nouveau, c'est un autre exemple avec la production du rhododendrol, qui est un composé naturel. Donc là aussi, c'est la réaction de Heck qui aussi est responsable, enfin, permet des couplages pour faire pour créer des liaisons carbone-carbone. Et vous voyez, ici, c'est aussi des nanoparticules de palladium. Le produit intermédiaire n'est pas isolé. On rajoute dessus une enzyme qui est aussi une alcool déshydrogénase qui permet de la réduction de cette cétone. Et là, vous voyez aussi des productions extrêmement intéressantes en termes de rendement et en termes d'excès énantiomérique. La réaction de Wacker, aussi une grande réaction. Alors, je vais pas, enfin, je continue. Hein, c'est toujours le même principe. Vous voyez, une oxydation en cétone et ensuite réduction. Et là, pareil, 99% d'excès énantiomérique. Vous voyez, on est déjà en 2012. Ce que je vous montre, c'est la progression en fonction du temps. Donc, les chercheurs ont montré petit à petit que toutes sortes de réactions assez compliqué avec des catalyseurs qui ne sont pas toujours très simples, qui peuvent être toxiques. Le palladium, ce n'est pas un composé sympathique pour les organismes vivants, et pourtant, voilà, tout ça marche. Évidemment, grande réaction, la réaction de métathèse, hein, avec des complexes de ruthénium, ce type de catalyseur. Là aussi, ici, c'est une réaction dans laquelle vous faites un nouveau produit avec des fonctions esters et vous utilisez des estérases pour faire une hydrolyse d'une des fonctions esters. Et vous voyez, vous avez des très, très bons rendements. Et puis, il y a ce joli travail. Vous voyez, on est déjà en 2014, Angewandte Chemistry, où, là aussi, c'est une réaction de métathèse. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça commence à montrer que, vous voyez, donc vous faites réagir ces deux composés avec ce type de catalyseur à base de ruthénium. Et en fait, vous avez un mélange de produits. L'intérêt, c'est que ces produits donc, sont en équilibre avec les réactifs. Et que si vous combinez avec un système enzymatique, il s'avère ici que c'est un cytochrome P450 qui est capable de transformer ces doubles liaisons en époxyde, eh bien vous pouvez aller jusqu'à la formation d'un époxyde. L'intérêt du système, c'est que cette enzyme est extrêmement sélective d'un des produits intermédiaires, le composé rouge ici. Et ces composés-là ne sont pas époxydés, mais comme ils se reconvertissent en substrat, à ce moment-là, ça tourne et petit à petit, vous accumulez cet intermédiaire qui finit en époxyde, de sorte que, malgré le fait que vous ayez un mélange ici, vous pouvez avoir 90% de rendement avec de tels systèmes. Donc c'est très intéressant. Et puis par ailleurs, effectivement, les gens ont commencé à cette époque-là, et vous allez voir quelques exemples, à s'intéresser à la question de, au fond, qu'est-ce que ces catalyseurs assez complexes font au système enzymatique et au système et aux micro-organismes en termes de toxicité. Et ici, bon, en effet, lorsque vous restez dans une concentration raisonnable de ce catalyseur, il n'y a pas d'inactivation de l'enzyme. L'enzyme supporte une certaine quantité d'un catalyseur à base de ruthénium. Toujours avec les enzymes, et je termine avec cette partie-là sur les enzymes, il y a eu des choses très très intéressantes qui ont été faites. Et là, je cite le travail de Thomas Ward dans Nature Chemistry en 2013. Alors, Thomas Ward, il y a très longtemps, enfin, très longtemps, il y a quelques années, je l'avais invité à faire un séminaire. Donc, Thomas Ward est le fils ou le petit-fils de George Whitesides. Je parle scientifiquement, hein, bien sûr, il n'y a pas de lien de famille. C'est-à-dire que, en fait, Thomas Ward, donc, qui est en Suisse, Thomas Ward a repris le travail de Whitesides. Whitesides, c'est un chimiste qui initie des tas de choses, mais qui approfondit relativement peu, mais il ouvre des tas de portes. Et ensuite, bon, si personne ne rebondit sur ce qu'il fait, il peut se passer du temps sans que rien ne se passe. Et Ward a sans doute retrouvé un petit peu cet article de 78 dont je parlais, et puis il est reparti avec les avidines et streptavidines et ce complexe entre streptavidine et biotine, parce que ça, c'est très, très intéressant, parce que ça forme un complexe très fort et que vous pouvez accrocher pratiquement n'importe quoi à une biotine, et donc vous créez des enzymes artificielles relativement intéressantes. Alors, donc, c'est bien de ça dont je vais parler. Ward a continué à travailler avec des streptavidines. Voici un complexe qui va permettre de faire des hydrogénations. C'est un complexe à base d'iridium. Vous voyez, c'est un iridium cyclopentadienyl. Et puis avec un ligand ici qui se termine par une biotine. Et donc, vous voyez bien que cette biotine peut être reconnue par les streptavidines. Et vous voyez, vous avez créé ici un catalyseur, un biocatalyseur artificiel, parce que vous avez de l'iridium et il n'y avait pas une seule enzyme sur la planète vivante pour le moment qui est connue pour avoir des atomes d'iridium dans des sites actifs, donc c'est purement artificiel. Et donc Ward a fait beaucoup de choses avec ce type d'enzyme artificiel. Voilà. Sauf que si on veut le combiner avec de la biocatalyse, ça, c'est une forme de biocatalyse, mais je vais l'appeler biocatalyse artificielle. Si on veut combiner ces enzymes-là avec des biocatalyses, il faut là aussi que le catalyseur, ici, soit compatible. Et le fait de le mettre... Alors, il s'avère que, en effet, ce catalyseur à base d'iridium est insoluble dans l'eau et relativement toxique, c'est-à-dire qui peut inactiver certains des biocatalyseurs qui ont été considérés par Ward. Et donc l'idée, c'est, eh bien, si je le sors du milieu libre et je le colle à une protéine, ici la streptavidine, sous cette forme-là, je vais avoir deux protéines ensemble, je vais rendre soluble mon catalyseur et éventuellement biocompatible, et c'est effectivement ce qui se passe. Donc l'approche, je prends un catalyseur chimique du type de ceux que je vous ai présentés, Wacker, Eck, Métathèse, etc. S'il y a de l'incompatibilité, de solvant, toxicité, etc., une approche peut être de mettre ce catalyseur sur une protéine. Et c'est vraiment ça que fait Ward. Et donc, c'est ce qu'il a fait ici avec ce complexe d'iridium. Vous voyez, il y a un groupement biotine à la fin. D'ailleurs, la biotine, ça inclut aussi cet acide carboxylique qui est ici couplé, hein, avec une fonction amide, le fixe sur la streptavidine, et voilà toute une série de réactions. Et voyez ici un exemple. Hein, voilà. C'est ce qu'il appelle ATHase, hein, Artificial Transfer Hydrogenase. Donc ce système-là catalyse le transfert d'hydrure du formiate vers des composés, des doubles liaisons. Et vous voyez ici, vous avez une hydrogénation. Il y a toutes sortes de réactions, je vais en montrer quelques-unes. La première, celle-là, où vous transformez en combinant, et donc maintenant, vous allez combiner le catalyseur artificiel, une monoamine, c'est des L-aminoacides oxydases et des D-aminoacides oxydases, et vous allez faire cette transformation qui est tout à fait importante dans l'eau, à l'air, à pH, vous voyez, 7, à température ambiante, et ça marche très très bien. Et là, vous avez le cas d'un système qui est beaucoup plus complexe que ce que je vous ai raconté jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'il y a d'une part une catalyse chimique ou biochimique artificielle avec ce système d'hydrogénation par la métalloprotéine artificielle et qui est combiné dans un seul réacteur avec trois enzymes naturelles, donc avec trois réactions biocatalytiques. Donc, dans une première étape, vous avez une L-aminoacide oxydase qui transforme ce composé lysine en ce composé-là, 27. Comme vous produisez de l'eau oxygénée, vous rajoutez de la catalase pour décomposer cette eau oxygénée, sinon ça pourrait poser un problème, parce que l'eau oxygénée, évidemment, peut être toxique lorsqu'il s'accumule. Grâce à l'enzyme artificielle, vous faites de l'hydrogénation, vous produisez un racémique, et vous avez un mélange des deux énantiomères, et vous rajoutez une D-aminoacide oxydase qui sélectivement transforme l'aminoacide D, et pas L, c'est l'acide pipécolique, cet intermédiaire, et ça tourne, et donc petit à petit ceci disparaît, et vous produisez uniquement celui-là, donc un seul énantiomère, donc vous pouvez faire une réaction très, très énantio-sélective. Voilà. Et ici, c'est la même chose, vous voyez, ça c'est le catalyseur. Ici, c'est combiné qu'à une seule monoamine oxydase. Mais vous voyez que par cette combinaison d'une réduction par une enzyme artificielle qui produit un racémique et cette monoamine oxydase, vous produisez un seul des énantiomères. Et vous voyez, pratiquement, vous avez tout converti. Le substrat, 100% de rendement et pratiquement 100% d'excès énantiomérique. Donc, du point de vue de la chimie, c'est évidemment tout à fait performant. Voilà, un autre exemple. Ici, vous avez une hydroxylation qui combine donc cette hydrogénase, enfin cette réductase avec une monooxygénase. Voilà. Alors, comment ça marche? Eh bien, le transfert d'hydrure avec cette enzyme artificielle se fait sur le NAD pour produire du NADH, et le NADH est utilisé pour donner les électrons nécessaires à l'activation de l'oxygène moléculaire pour faire une hydroxylation aromatique. Bon, voilà. Et vous voyez, là aussi, avec des conversions de 100%, donc c'est tout à fait intéressant. Dernière partie de ce que je vais raconter, c'est maintenant combiner chimio, catalyse et métabolisme cellulaire. Et en gros, je vais discuter de trois approches, et je vous invite à lire les travaux d'Emily Balskus à Harvard. C'est vraiment tout à fait intéressant. Pour moi, c'est la personne qui aujourd'hui est la plus en avance sur ces combinaisons-là. Donc, en gros, vous avez trois façons de faire. Soit vous utilisez une usine cellulaire qui produit un intermédiaire qui vous intéresse, que vous transformez ensuite par une chimiocatalyse. Évidemment, l'idée étant de faire tout ça en un seul réacteur. Il ne s'agit pas d'isoler l'intermédiaire. Donc là aussi, biocompatibilité entre un catalyseur chimique et un micro-organisme. Ensuite, vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire produire un composé B qui est absolument nécessaire, par exemple, à la croissance d'un organisme. Donc, la même souci de biocompatibilité, hein, c'est la même chose que ça, sauf que vous êtes dans l'ordre inverse et vous modifiez des molécules qui vont être utilisées par les micro-organismes et qui peut-être vont transformer ensuite en un produit souhaité. Et puis, vous avez ce qui est plus compliqué, c'est faire ce que j'ai déjà appelé des organismes chimiquement modifiés, c'est-à-dire que tout se passe dans la cellule. Vous avez introduit un catalyseur purement synthétique que vous avez introduit à l'intérieur de la cellule, et à l'intérieur de cette cellule, vous avez une étape qui est... Alors là, on ne sait plus comment l'appeler, elle est chimique parce que c'est un catalyseur chimique, mais elle est à l'intérieur d'un organisme vivant qui vit, donc elle est biologique aussi. Donc voilà, c'est ça qui est indiqué ici. Et là, évidemment, vous avez la potentialité de rajouter des activités au sein de chemins métaboliques. Vous pouvez modifier des systèmes enzymatiques, vous pouvez contrôler la chimie redox du système. Il y a très très peu de choses qui ont été faites là-dedans. Donc voilà, on a des nouveaux outils pour étudier et manipuler le métabolisme des microbes en faisant ça aussi. Et donc, manipuler le métabolisme des microbes par la chimie et évidemment toujours dans un souci de synthèse, ça permet des nouvelles approches pour produire des composés chimiques en touchant au métabolisme des organismes. Alors, je vais commencer par ça. Et juste pour vous dire d'abord que, en vrai, ça existe. Quand je dis en vrai, c'est-à-dire les organismes vivants produisent des molécules pour aller faire quelque chose derrière. Ça existe, c'est naturel. Quelques exemples. Ici, par exemple, vous avez des organismes comme Pseudomonas, qui excrètent des molécules de type phénazine, qui ont des propriétés redox intéressantes, potentiel redox relativement bas, qui ont été synthétisées à l'intérieur d'une cellule, réduites à l'intérieur de la cellule par des enzymes, du NADH, etc., et qui sont excrétées, et qui sont des bons réducteurs d'oxyde de fer, de fer ferrique. Et ça, c'est essentiel pour la bactérie parce que en transformant du fer 3 en fer 2, le fer 2 est récupéré et la phénazine aussi est récupérée par la bactérie. La bactérie a besoin de fer et c'est une des façons qu'elle a de récupérer du fer parce que sous forme fer 3, c'est insoluble, c'est irrécupérable et qu'il faut d'abord réduire le fer qui est dans son environnement sous forme ferreuse pour pouvoir le récupérer et assister son métabolisme qui a évidemment besoin de fer. Par exemple, il y a des souches de champignons qui dégradent les parois cellulaires des plantes, mais qui ne possèdent pas cette enzyme qui s'appelle la lignine peroxydase, qui est une enzyme extrêmement puissante, très spécifique de ces champignons, qui sont très doués pour dégrader ce polymère végétal qui est la lignine. Il y a de gros enjeux chimiques, industriels, autour de ces processus de dégradation des parois végétales de lignine pour récupérer en particulier toute la partie cellulose et hémicellulose. Et bien là aussi, ce sont des champignons donc, qui ne possèdent pas cette puissance enzymatique pour dégrader ce polymère. Et en fait, ce que font ces champignons, c'est qu'ils produisent des quinones, donc synthétisés dans la cellule et excrétés, qui sont donc réduites et qui réduisent du fer 3 en fer 2. Ça a conduit à la production d'une chimie de type phanton qui réagit sur de l'eau oxygénée ou sur de l'oxygène pour donner des radicaux OH- qui sont extrêmement bons pour dégrader la lignine et la lignine est dégradée. Et évidemment, le champignon fait ça parce qu'il a besoin de sources de carbone lorsqu'il pousse sur ses plantes. Et la lignine est très abondante et une fois dégradée, elle conduit à des composés organiques de type acide humique qui peuvent être des sources de carbone et d'énergie pour la bactérie. Donc cette idée d'une chimie secondaire après métabolique qui est utile pour le système vivant, c'est quelque chose qui existe. Bon, ça c'est un autre exemple, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Voilà, donc à nouveau, l'idée, c'est de rendre compatibles ces réactions chimiques avec ces réactions enzymatiques. Donc l'idée, c'est de mettre au point des réactions non enzymatiques qui influencent le métabolisme en modifiant chimiquement des petites molécules en présence d'organismes vivants. Donc il faut travailler il y a des contraintes sur les conditions chimiques, il y a des contraintes de solvant, il y a des contraintes de température et de pH. Pour ce qui est la partie biologique, il y a des contraintes de compartimentation, il y a la question de l'inactivation mutuelle, une bactérie peut inactiver le catalyseur ou inversement, il y a la complexité des milieux, il y a la perméabilité cellulaire qui est limitée, il y a une faible concentration de métabolites, enfin c'est extrêmement compliqué, les conditions initiales sont très aberrantes. Et donc on peut dire qu'en faisant cela, c'est une autre biologie de synthèse. On peut donc élargir le répertoire des métabolites, manipuler la nature et la concentration des métabolites. On peut modifier, en gros, le métabolisme général d'un organisme. Voilà. Alors, là aussi, quand est-ce que ça commence? Alors, je prends ce premier travail. 1919, vous voyez. Bon, mais là, il faudra attendre, c'est quoi la date suivante? 2013, voilà. Donc, il faudra attendre 100 ans pour voir des choses intéressantes. Mais en 1919, vous voyez, ce Neuberg fait fermenter des levures en fournissant du sucre, et parce qu'il ajoute du bisulfite de sodium, dans le milieu de culture, il y a une réaction chimique qui se fait, qui est la réaction avec l'acétaldéhyde pour donner cet adduit. Et ça a comme effet de faire dériver l'acétaldéhyde ici, et donc de ne pas consommer du NADH nécessaire du NADH pour la réduction de l'acétaldéhyde en éthanol. Le NADH s'accumule, donc vous modifiez le métabolisme redox de cet organisme, la levure, et cette accumulation du NADH a pour effet de favoriser cette étape-là qui va jusqu'au glycérol. Donc, au lieu de faire de l'éthanol avec une souche de levure que vous fermentez, vous faites du glycérol. Et ça, au moment de la... Enfin, la puissance de l'Allemagne dans cette période-là s'est appuyée sur des choses comme ça, des productions, enfin des productions industrielles de glycérol qui avaient entre autres applications les explosifs qui pouvaient être utiles pendant la guerre. Voilà, donc je termine avec quelques réalisations donc récentes. Vous voyez, je commence en 2013. Et je vais parler de ce qui a été fait ces toutes dernières années par le groupe d'Émilie Balskus, avec les différentes combinaisons. Donc, première combinaison, prendre un organisme qui ne peut pas utiliser le composé A et qui ne peut pas synthétiser le composé B, mais qui a besoin du composé B pour croître. Donc si la réaction marche ici avec un composé non enzymatique, avec un catalyseur non enzymatique qui transforme A et B, et à ce moment-là, on suit la croissance et on voit que ça marche. Voilà, ici, ce qui a été choisi par ces chimistes, c'est de travailler avec des souches d'Escherichia coli qui dépendent absolument de la présence de para-hydroxybenzoate, Le parahydroxy. Pardon, pas. Para-amino-benzoate, para-amino-benzoic acide. Bon. Para-amino-benzoate, parce que, comme vous allez le voir, il y a un certain nombre de mutations qui ont été faites dans cette souche, donc a besoin absolument de PABA. Et ici, ce qui est couplé, tout ça, c'est des preuves de concept hein, aujourd'hui. Hein. Voilà un précurseur, ça, c'est le composé A, et vous avez besoin d'un catalyseur à base de ruthénium pour faire la transformation en PABA. Donc, si tout ça est mélangé et que ça marche, à ce moment-là, la bactérie peut pousser. Si ça, ça ne marche pas, s'il n'y a pas de catalyseur, s'il n'y a pas de substrat, normalement, ça ne doit pas pousser. Et c'est effectivement ce qui est observé ici. Vous voyez, lorsque vous ajoutez du PABA à cette cellule, elle pousse. Hein, c'est trouble ici, ça veut dire qu'il y a des bactéries. Si vous ne mettez pas de PABA, elle ne pousse pas. Donc, c'est ce caractère oxotrophe de la bactérie. Elle ne peut pas pousser en présence de cette source d'énergie et de carbone. Enfin, surtout, elle a besoin de PABA comme intermédiaire de synthèse. Et si maintenant vous rajoutez du substrat et du catalyseur, donc ça et ça, donc pas de PABA, mais ces deux choses-là, et ça se met à pousser. Voilà, c'est ce qui est indiqué aussi ici. Si vous enlevez le PABA, ça ne pousse pas. Si vous enlevez le PABA, mais que vous rajoutez que le substrat, ça ne pousse pas. Bon, il faut les deux. Donc, effectivement, vous avez, dans un milieu de culture avec une bactérie, était capable de faire vivre cette bactérie et en même temps d'avoir une réaction chimique avec un catalyseur à base de ruthénium. Voilà, donc ça c'est juste pour vous dire voilà où ont été mutées les bactéries. Ici en amont, ce gène a rossé pour la production du chorismate et ici pour la synthèse du PABA. Donc c'est mutant là. Un autre exemple qui montre que ça peut être relativement simple. Une souche d'Escherichia coli où il y a une mutation dans ce gène AROC, donc c'est bloqué en amont, et donc c'est une bactérie qui n'a ni PABA ni acide parahydroxybenzoïque, qui est nécessaire pour la synthèse de l'ubiquinone. Il faut produire l'un ou l'autre pour que la bactérie pousse. Et donc, ce qui a été fait ici, c'est de partir d'un composé, l'acide benzoïque, qui sert strictement à rien pour la bactérie, et de voir s'il n'y a pas une réaction chimique qui peut être couplée pour la transformer en parahydroxybenzoate. Et là, ce qui est donc avec un oxotrophe parahydroxybenzoate qui a besoin de parahydroxybenzoate. Vous voyez d'ailleurs que quand il y a du parahydroxybenzoate, qui est cette molécule, ça pousse, et quand il n'y en a pas, ça ne pousse pas. Et quand vous prenez cette même bactérie que vous mettez de l'acide benzoïque ou qui n'a pas ce groupement OH, ça ne pousse pas non plus. Donc il faut vraiment cette molécule. Eh bien ici, tout simplement, en ajoutant un sel de fer et un réducteur, ici c'est l'acide citrique, et de l'oxygène, eh bien, ça pousse. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que c'est une chimie qui n'est pas d'une très grande efficacité, qui n'est pas très sélective. Vous voyez ici, c'est la partie chimique. Hein, ici, il n'y a pas d'organisme, pas d'enzyme, etc. C'est purement une réaction chimique dans l'eau. Eh bien, vous faites de l'hydroxylation aromatique, en effet, sauf que c'est une réaction pas du tout sélective, vous voyez, avec un très mauvais rendement, etc. Eh bien, il suffit qu'il y ait un peu de parahydroxybenzoate pour que la bactérie pousse. Donc, vous voyez, c'est en fait ça qui a été ici illustré dans ce que je viens de dire. Je vais passer à ça. Une autre façon de faire, c'est de combiner un catalyseur qui transforme un intermédiaire excrété par une bactérie. Et je vais prendre à nouveau un travail qui a été publié en 2014 par Émilie Balskus. Donc là, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a manipulé une souche d'Escherichia coli en lui introduisant des enzymes de type PFOR, ferredoxine, et donc cette bactérie est capable de transformer, enfin de pousser sur glucose et de produire de l'hydrogène. Et produisant de l'hydrogène, on peut coupler cette réaction avec une réaction d'hydrogénation d'une double liaison, d'une oléfine avec un catalyseur. Voilà, et donc c'est exactement ce qu'elle a fait, et il suffit... Bon, ça c'est des résultats qui montrent que le milieu de culture est important, vous voyez ça, LB, M9 et M9CA plus fer, tout ça sont des milieux de culture différents, vous voyez que M9 est toujours mieux que LB, vous voyez que ce milieu de culture-là est meilleur que M9, bon, donc ils ont travaillé sur les milieux de culture, mais vous voyez ici, sans hydrogène, donc uniquement en prenant des bactéries dans un milieu de culture et ce substrat, on fait de l'hydrogénation. Et on montre très très clairement dans ce travail que c'est l'hydrogène produit par la bactérie qui est responsable de l'hydrogénation du réactif. Ce réactif, cette réaction nécessite non seulement l'hydrogène fourni par la bactérie, mais également un catalyseur à base de palladium, le catalyseur de Royer, qui est assez complexe. Et vous voyez, les rendements sont tout à fait bons. On convertit 100% du substrat. Bon, ça, il n'y en a pas besoin. Voilà, donc ça, c'est avec cette stratégie-là, ce groupe a montré qu'on pouvait... avec des très très bons rendements, vous voyez, 92, 83, 78, etc., avec des très bons rendements, transformer toute une série de composés, des alcynes, des hétérocycles, des esters, des amines, voilà, toutes ces doubles liaisons dans ces différents composés peuvent être transformées par cette combinaison-là de micro-organismes qui produisent de l'hydrogène avec un catalyseur. Toxicité, il n'y en a pas, c'est ce qui a été démontré ici de façon assez précise. Vous faites la réaction, vous regardez combien vous avez de colonies bactériennes qui poussent, et bien, vous voyez, quand vous avez toute la réaction ou que vous enlevez le substrat, c'est-à-dire quand il ne se passe rien, quand il n'y a pas de catalyseur, il ne se passe rien, pas de catalyseur et pas de substrat, et bien, vous avez à peu près la même chose. Donc, on peut vraiment combiner des systèmes chimiques très complexes avec ça. Alors là aussi, je voulais vous dire que produire de l'hydrogène pour une bactérie pour servir à quelque chose, ça existe. L'hydrogène est un élément de communication entre bactéries qui est très très important. Voilà, il y a des exemples de bactéries qui produisent de l'hydrogène qui est utilisé ensuite par une autre bactérie pour faire voilà, pour faire de la chimie comme source d'électrons et source d'énergie. Autre exemple, là j'en suis à 2015, autre exemple, c'est des réactions de formation de composés cyclopropaniques. Et ici, c'est une souche de d'Escherichia coli qui a été manipulée pour produire du styrène. Alors styrène, c'est un composé qui n'est évidemment pas produit naturellement. Normalement, c'est un produit de l'industrie pétrolière. Le styrène est un composé très très important de l'industrie chimique. Et là, il est produit par une bactérie, et tout simplement parce que il a été introduit dans cette souche bactérienne une phénylalanine ammonialyase, donc qui fait cette élimination de NH3 pour faire cette double liaison. Vous voyez qu'il y a un acide carboxylique donc qui fait une décarboxylation. Donc cette enzyme, c'est une enzyme de plante, cette enzyme, c'est une enzyme de levure. Tout ça a été introduit dans Escherichia coli, et en effet, coli est capable de transformer la phénylalanine en styrène par ce mécanisme-là. Et ce qui est fait ensuite, c'est vous couplez ça à une réaction de cyclopropanation qui n'existe pas dans la nature. C'est une réaction que seuls les chimistes ont mis au point. La nature n'a pas eu besoin de faire de composés de ce type-là, et il n'y a pas d'enzyme qui fait une cyclopropanation. De sorte que si vous combinez cette production naturelle maintenant, entre guillemets naturel, de styrène avec un catalyseur de type, voilà, avec un catalyseur ici, pardon, qui est une phtalocyanine de fer, et avec cet agent qui est un éthyldiazoacétate, voilà, vous insérez une liaison, vous insérez cet atome de carbone dans la double liaison et vous faites ce cyclopropane. Voilà, et ça marche bien. Voilà, vous voyez, des très très bons rendements, une certaine diastéréosélectivité, dans des conditions, vous voyez, à l'air, à 30 degrés, voilà, tout ça marche bien, et ça a été fait avec différents types de réactifs. Voilà. Et pour terminer, eh bien, il y a cette possibilité-là. Faire des organismes chimiquement modifiés, j'ai évoqué au cours de cette année et à la fin de ce cinquième cours, avant d'attaquer le dernier, la semaine prochaine, j'ai évoqué à plusieurs reprises des cas d'organismes chimiquement modifiés. C'est une notion, à mon avis, très, très intéressante, nouvelle, qui peut poser des problèmes à nouveau de respect de l'environnement, néanmoins qui fournit la capacité de chimiquement transformer assez simplement, sans toute cette ingénierie métabolique qui implique d'introduire des gènes, de les faire vivre ensemble, etc., mais avec des composés chimiques relativement simples à synthétiser, moyennant qu'ils pénètrent à l'intérieur de la bactérie et qu'ils fassent proprement la chimie qu'on a imaginée. Bon, je cite des travaux, vous voyez, qui ne sont pas très vieux, de Peter Sadler, par exemple, qui est un chimiste organométallicien, qui a introduit des catalyseurs ici à base de ruthénium ou à base d'iridium, et je n'en dirai pas plus, mais qui ont comme propriété de catalyser l'oxydation du glutathion, qui est une molécule redox extrêmement importante pour la cellule. Cette oxydation bouleverse le métabolisme redox et va changer complètement le métabolisme de la cellule. Ce catalyseur à base d'iridium catalyse l'oxydation du NADH en NAD+, là aussi le NADH est évidemment un réducteur central du métabolisme bactérien, de tous les organismes vivants, et donc en déplaçant l'équilibre vers du NAD+, donc la forme oxydée, vous bouleversez le métabolisme redox. Donc, et ces molécules rentrent à l'intérieur de la cellule, vous faites effectivement une transformation ici, à l'intérieur de la cellule, et après il faut voir quels sont les effets. Ça c'est très très lourd comme effet, parce que vous bouleversez énormément de choses quand vous touchez à l'homéostasie redox de la cellule. Voilà, je finis sur ça, parce que j'en ai parlé, je crois, la semaine dernière. C'est la suite du travail qu'on avait mené sur l'activation des hydrogénases, mais au fond, c'est exactement la même chose. J'ai parlé d'organismes chimiquement modifiés. Lorsque vous traitez une bactérie comme Escherichia coli qui exprime une hydrogénase, en lui donnant ce petit complexe qui devient un catalyseur de réduction des protons en hydrogène, et tout d'un coup, vous avez une bactérie qui produit pas du tout d'hydrogène, en une bactérie qui produit évidemment une molécule intéressante qui est l'hydrogène, simplement parce que vous lui avez mis un petit complexe qui est rentré à l'intérieur, qui a trouvé le bon site pour fonctionner. Voilà. Donc, j'en ai terminé. J'ai beaucoup parlé l'année dernière d'ingénierie métabolique et de biologie de synthèse. Je voulais vous montrer qu'on rentre dans une ère où il va exister des organismes chimiquement modifiés. Peut-être vous vous souvenez, ceux qui étaient là, j'ai notamment parlé de l'introduction de nanotubes de carbone dans des mitochondries, dans des chloroplastes, pardon, et des plantes qui potentialisaient la photosynthèse. C'est un autre exemple. Donc, on voit apparaître aujourd'hui des choses comme ça. Alors, évidemment, ça pose un problème parce que on a tous la pétoche de modifier des organismes. Quand c'est génétiquement, vous savez quel est le problème, la tension qu'il y a autour de ces questions-là. Un gène, c'est rien d'autre qu'une molécule chimique, hein, mais bon, c'est aussi chimiquement modifié. Mais bon, maintenant, je parle d'organismes chimiquement modifiés. On en est vraiment au tout début. Il faudra faire attention, bien sûr, mais je pense qu'on peut, là aussi, dans des visées biotechnologiques pour l'avenir, considérer que la chimie jouera son rôle. Voilà, je vous remercie.